Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Radion, 11h passées de quelques minutes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission que nous vous proposons aujourd'hui en nouvelle diffusion. Elle a été en effet diffusée la première fois sur l'antenne de Radion le 25 février 2015. Émission au cours de laquelle je recevais Bernard Lecomte qui venait de faire paraître en France la première grande biographie consacrée à Mikhaïl Gorbatchev. Pourquoi Mikhaïl Gorbatchev aujourd'hui? Tout simplement parce que le 2 mars prochain, d'abord, et ça c'est pour la petite histoire, Mikhaïl Gorbatchev fêtera ses 90 ans, et puis au mois de décembre 2021, nous aurons vraisemblablement l'occasion avec les historiens et les journalistes de revenir sur le 30e anniversaire de l'éclatement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Un mot sur Bernard Lecomte, que vous allez entendre nous raconter la vie et le parcours mouvementé, presque romanesque de Mikhaïl Gorbatchev. Bernard Lecomte est journaliste d'investigation, il habite dans Lyon. Il a été chef du service étranger du quotidien La Croix, grand reporter à l'Express, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Il a publié de nombreux livres, dont une remarquable biographie de Jean-Paul II, qui fait autorité, toujours disponible chez Gallimard, notamment en collection folio, en collection de poche. On lui doit aussi un très grand nombre de livres sur le Vatican, notamment il y a plus de 10 ans maintenant, Les secrets du Vatican, c'était chez Perrin. On lui doit aussi chez Plomb le dictionnaire amoureux des papes. Et puis concernant l'histoire de l'Union soviétique, Bernard Lecomte a fait paraître il y a plus de 5 ans maintenant chez Perrin Les secrets du Kremlin. On lui doit aussi l'histoire du communisme pour les nuls aux éditions First en 2017. Et puis au cours de l'été 2020, l'année dernière, apparu toujours chez Perrin, KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques. Aujourd'hui donc, retour sur celui qui a reçu le prix Nobel de la paix, personnage charismatique, ambigu et attachant, très lié à sa femme Raïssa, Mikhaïl Gorbatchev, qui reste un mystère. A-t-il voulu mettre fin à la plus puissante idéologie du siècle ou a-t-il été dépassé par les événements qu'il a provoqués? Bernard Lecomte.
C'est sans doute un des hommes encore vivants auxquels nous devons le plus de choses. Vous savez, c'est pas si évident que ça. L'histoire est ainsi faite que il y a des forces stratégiques, il y a des forces géopolitiques, il y a les médias, la communication, l'économie, tout ça, ça fait l'histoire. Et puis il y a les hommes. Mais ces hommes sont souvent escalités. Ils sont là parce qu'ils sont président de ceci ou secrétaire général de cela. Mikhaïl Gorbatchev, c'est l'homme auquel on doit, à lui, à ce qu'il a voulu, à sa volonté, aux décisions qu'il a prises lui-même, on doit la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, la fin du goulag, la fin du communisme en Europe et la fin de l'URSS. Citez-moi, cher Yannick, un dirigeant, un personnage auquel nous devions tant.
Alors, je sais que vous aviez signalé que, par exemple, Hitler avait aussi beaucoup marqué l'histoire du monde, le général de Gaulle aussi, d'une certaine manière. Mais il n'y a pas tellement d'hommes politiques qui, effectivement, aient complètement métamorphosé quand même les données géopolitiques, diplomatiques et idéologiques de la planète.
Vous avez raison, il faut, hélas, enfin, c'est évidemment pas plaisant, mais il faut remonter à Hitler pour trouver quelqu'un qui a, à ce point, personnellement changé l'histoire. Vous citez le général de Gaulle. Bien entendu, le général de Gaulle a changé l'histoire, mais il a changé, soyons clairs, l'histoire de France. Alors que Mikhail Gorbatchev, qui n'est ni Hitler ni de Gaulle, Mikhail Gorbatchev, on aura l'occasion d'y revenir, ça n'est pas un géant, ça n'est pas un titan, ça n'est pas un empereur romain, ça n'est pas Churchill, c'est un homme, je ne dirais pas moyen, bien sûr, il est largement au-dessus de la moyenne, mais enfin, ça n'est pas un grand de l'histoire. C'est un homme qui a eu un destin exceptionnel et qui s'est trouvé au carrefour des grands courants de notre histoire contemporaine. Et c'est lui qui a fait pencher l'histoire d'un côté plutôt que d'un autre.
Alors, à l'heure actuelle, il a laissé un très mauvais souvenir dans l'ex-Union soviétique. Il est détesté alors qu'il est adulé. C'est un peu cette gorbimania qui continue encore aujourd'hui. En Occident, il est reçu et on déroule pour lui le tapis rouge.
Oui, c'est la deuxième raison pour laquelle il devrait entrer dans le Guinness des records. La première, c'est parce qu'il a vraiment changé l'histoire plus que les autres. Et la deuxième, c'est incontestablement l'homme qui a le plus grand différentiel entre les gens qui l'adulent à l'Occident, nous-mêmes en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, lorsqu'il va faire des conférences, lorsqu'il est invité, il est accueilli comme un chef d'État et tout le monde le considère comme un grand homme. Et puis, chez lui, en Russie, tout le monde le considère comme un minable, comme quelqu'un qui est insupportable, qu'il faudrait d'ailleurs juger parce qu'il a, au fond, fait s'effondrer la puissance soviétique. Et on comprend bien, on y reviendra peut-être aussi, puis on parlera peut-être de Poutine, parce que c'est là qu'est né le Vladimir Poutine que nous connaissons. C'est que cette population, c'était la population soviétique qui était la deuxième puissance du monde à l'époque. Et le fait que Mikhail Gorbatchev ait fait tomber le mur de Berlin et rendu possible la réunification de l'Europe, tout ça, ça a fait s'effondrer cette fameuse deuxième grande puissance du monde qui aujourd'hui n'est plus que la Russie, un pays parmi d'autres, largement dépassé, bien sûr, par les États-Unis, mais aujourd'hui par la Chine, par les pays émergents. La Russie n'est qu'une puissance moyenne aujourd'hui. Et ça, les Russes considèrent que c'est la faute de Mikhail Gorbatchev.
J'ai un certain plaisir à le dire. Bernard Lecomte, vous avez rencontré Gorbatchev en 92-93
Je l'ai rencontré plusieurs fois parce que j'ai eu la chance, moi, de couvrir tous ces événements pour mon magazine, l'Express. J'étais donc tout le temps fourré à Moscou ou à Leningrad ou dans le Caucase ou en Pologne ou à Berlin. Et j'ai eu la chance de le rencontrer pas mal de fois. Simplement, comme j'avais vaguement en tête déjà l'idée un jour de revenir sur ces événements-là, je lui avais demandé, après la chute de l'Empire soviétique, je lui avais demandé s'il m'accorderait une longue interview. Ce qu'il a fait, je suis arrivé spécialement de Paris un jour, c'était effectivement 93, je crois, dans ces eaux-là. Il m'a accueilli chez lui. On a passé tout un après-midi et j'avais avec moi des dizaines de questions que j'avais notées fébrilement en me disant bon, c'est le moment ou jamais de poser ces questions. À tel moment de l'histoire, est-ce que vous pensiez ceci ou cela, etc. Vous savez, pour un journaliste, ce sont des moments très privilégiés d'avoir la personne qui a fait l'histoire en face de vous pendant plusieurs heures avec la possibilité de dire et à telle heure, que faisiez-vous ? Et que vous a répondu le président machin, etc. C'était, j'ai un souvenir formidable de cet après-midi-là, parce que c'est ce que j'avais évidemment tout noté, tout enregistré, et ça m'a été d'une utilité extrême pour ce livre, bien sûr, parce que à chaque fois on se dit, mais au fond, oui, c'est vrai, il y a un moment où De Gaulle dit « je vous ai compris ». Bon, très bien, mais qui était derrière lui ? Qui lui a soufflé la phrase ? Comment ont réagi les gens en bas au Forum d'Alger ? Les grands événements de l'histoire sont toujours un peu mystérieux, parce qu'on en a gardé une image, un son, une phrase, et il faut après explorer ces grands moments de l'histoire en disant « mais qui était là ? Quel temps faisait-il ? Pourquoi le type était là et tel autre n'était pas là ?» Et ça, j'ai eu la chance avec Mikhail Gorbatchev de revenir sur les six ans qui ont changé le cours du monde. Les six ans qui commencent donc le 11 mars 1985, c'est 30 ans que nous célébrerons dans 15 jours, jusqu'au 31 décembre 1991, date de la fin de l'URSS. C'est, on peut même dire le 25 décembre si on veut pinailler un peu, puisque c'est le 25 décembre que Mikhail Gorbatchev signe sa démission. Donc voilà six années qui ont changé la face du monde, incontestablement. Et j'ai eu la chance, en effet, d'avoir en face de moi, pendant tout un après-midi, le principal acteur de ce changement, en lui disant, et Mikhaïl Sergeïevitch, à tel moment, comment réagira Issa, comment Boris Eltsine vous a répondu, voilà. Ça, c'était quand même très précieux.
C'est un personnage sympathique.
Le mot me fait toujours un petit peu tiquer. C'est un mot qui ne sied pas à un journaliste. Quand un journaliste, il n'a pas à dire si la personne est sympathique ou pas. L'importance du journaliste, il a dit ça, il a pensé ça, et voilà sa stratégie, et voilà l'explication des choses. Je crois n'avoir jamais employé le mot sympathique dans toute ma carrière de journaliste. C'est la première fois que je l'emploie, en effet. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Cet homme-là, il est vraiment sympathique. Et ça n'est pas seulement l'impression personnel qu'il a fait sur moi, ça compte dans sa carrière. Si cet homme-là n'avait pas été aussi sympathique, il n'aurait pas eu la même carrière en Russie soviétique, il n'aurait pas eu le même ascendant sur des gens comme Margaret Thatcher ou François Mitterrand, il n'aurait pas eu le même contact avec les journalistes internationaux qui, comme moi, l'ont encerclé pendant des années. Et donc, la sympathie que cet homme-là inspire fait partie de l'histoire. C'est, encore une fois, très rare, parce qu'à ce niveau de dirigeants internationaux, encore une fois, la sympathie, c'est pas le problème. Là, c'est un élément essentiel.
Bernard Lecomte, à l'instant, à notre micro, dans un wagon-livre diffusé une première fois en février 2015 pour sa biographie Gorbatchev, parue aux éditions Perrin. Vous la trouvez d'ailleurs actuellement en livre de poche dans la collection Tempus. On marque un premier temps de pause musicale. C'est Wagon-Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On se retrouve dans une poignée de minutes, toujours avec Bernard Lecomte, pour évoquer la vie et le parcours politique de Mikhaïl Gorbatchev, qui fêtera, je le répète, le 2 mars prochain, ses 90 ans.
Wagon Livre, Votre émission littéraire.
À l'instant sur Radion, c'était Pomme avec son titre Les cours d'eau. Nous retrouvons, nous, le cours de l'histoire avec Bernard Lecomte pour continuer d'évoquer la vie de Mikhaïl Gorbatchev. Mikhaïl Gorbatchev qui fêtera le 2 mars prochain ses 90 ans. Il est né dans un petit village au sud de la Russie du Sud et il a été secrètement baptisé par une grand-mère chrétienne, Mikhaïl Gorbatchev, qui par la suite va gravir tous les échelons de la hiérarchie communiste. Bernard Lecomte.
Tout à fait. Il est en effet né dans la Russie profonde. Son village, Privolnoye, c'est l'équivalent de Saint-Denis-sur-Ouane en Puisée. Hein. C'est vraiment un petit village où tout le monde se connaît. Alors vous avez raison de rappeler, c'est intéressant, sa grand-mère l'a baptisé en secret. Nous sommes en pleine période stalinienne à l'époque. Mais il faut dire aussi que son père et son grand-père paternel sont communistes. Ils ont été du côté des bolcheviks et ils ont été les promoteurs du principal kolkhoz du coin. C'est très important parce que Mikhaïl Gorbatchev, jusqu'à aujourd'hui, considère qu'il a une dette, ce qui est normal hein, pour n'importe quel homme, à l'égard de son père et de son grand-père. Et il dit toujours, mon père et mon grand-père étaient communistes. Et donc, il faut bien comprendre ça, parce que cet homme qui va être le grand réformateur du communisme, en tout cas qui va essayer de le réformer, et qui va être un peu le fossoyeur du communisme européen, cet homme-là est d'abord un communiste qui est extrêmement fidèle à sa famille, à ce qu'on lui dit, à son école. Et vous avez raison, il va faire une carrière exemplaire, d'abord dans cette région du sud de la Russie, puis à Moscou, plus tard. Pourquoi fait-il une carrière aussi exemplaire ? Parce qu'il est totalement dans la ligne. On chercherait en vain, dans la carrière de Gorbatchev, pendant ses 54 premières années, le moindre écart de langage, la moindre nuance dans un jugement politique, la moindre critique à l'égard de ce qu'on fait Staline, puis Khrouchtchev, puis Brejnev. Cet homme-là, il est complètement dans la ligne. Quand il arrive au pouvoir, il a 54 ans, il n'a jamais dévié d'un iota. Alors, ça ne l'empêche pas de s'être cultivé un peu plus que les autres, d'avoir une femme qui l'a beaucoup aidé, justement, à s'élargir un petit peu l'horizon, à avoir lu des poètes, à avoir lu des dramaturges, s'intéresser à la culture de son pays, et donc pas seulement à la culture stalinienne, à la culture russe aussi. Et puis, cet homme-là a rencontré, par exemple, à l'université, un jeune tchèque qui lui a un peu ouvert les yeux sur ce qui se passait en Europe. Les hasards de l'histoire et de la vie feront que ce jeune tchèque sera un des promoteurs du printemps de Prague en 1968. Donc Mikhaïl Gorbatchev en 68 sait très bien ce qui se passe à Prague. Ça ne va pas l'empêcher de condamner absolument l'action des Tchèques et de soutenir la valeureuse action des chars soviétiques qui sont en train d'envahir le pays. Mais il sait ce qu'il se passe, puisqu'un de ses meilleurs copains d'école ou d'université est là-bas, justement, parmi les leaders du printemps de Prague. Donc il ne faut surtout pas le prendre pour un neuneu. Il ne faut surtout pas le prendre pour un inculte. Soyons clairs, hein, y a beaucoup de dirigeants soviétiques qui sont incultes, qui tout simplement ne sont jamais sortis de chez eux, s'intéressent pas au reste du monde et n'ont jamais lu un poète. Mais lui, non. Il a cette culture, il a cette ouverture d'esprit. Autre fait tout à fait exceptionnel, il ne boit pas. Et croyez-moi, dans ce pays, à cette époque-là, quelqu'un qui ne boit pas, c'est un phénomène. Mais c'est un phénomène parce que tout le monde se moque de lui tous les soirs de beuverie. Mais en même temps, quand il s'agit de nommer quelqu'un à un poste, on se dit, bah, lui au moins, il ne boit pas. C'est toujours ça de prix. Donc, vous voyez, c'est un garçon qui est absolument dans la ligne. Il fait une carrière d'une orthodoxie absolue. Et en même temps, il a pas mal de choses. Son côté sympa, le fait qu'il ne boive pas, sa culture, sa femme, son ouverture d'esprit.
Ses origines paysannes aussi. Si quelque part ont forcément amené à s'intéresser aux problèmes alimentaires dans un grand pays comme la soviétique a connu des famines.
Sauf que, si vous voulez, il naît avant la guerre, donc dans les années, il naît en 1931, dans les années 30-40, 95% des soviétiques sont paysans ou fils de paysans. L'industrialisation n'a fait que commencer sous Staline. C'est quelque chose de nouveau. Donc même les ouvriers sont fils de paysans à cette époque-là en Union soviétique. Donc c'est pas original, si vous voulez, de venir d'un petit village rural. C'est pas très original d'avoir appris à piloter une moissonneuse-batteuse. Le jeune Mikhail Sergeyevitch a piloté avec son père des étés durant la grosse moissonneuse-batteuse du Kolkhoz. Il en aura d'ailleurs une médaille. C'est cette fameuse médaille. En Union soviétique, on adorait les médailles. Hein. Mais c'est cette fameuse médaille du travail socialiste qui va lui permettre d'aller faire des études à Moscou. Sinon, probablement jamais il serait sorti de son village. C'est grâce à cette médaille et à cette moissonneuse-batteuse qu'il va faire ses études à Moscou qui lui permettront d'avoir la carrière dans le parti qu'il aura ensuite.
Et c'est une Union soviétique qui a encore les séquelles extrêmement fortes de la Seconde Guerre mondiale. C'est un pays qui a été extrêmement abîmé.
Oui, on ne comprend pas les soviétiques de cette époque, et notamment ces jeunes-là, cette jeunesse. Mikhail Gorbatchev, qui est étudiant en 1950. Raïssa, pareil, c'est là qu'ils se rencontrent à l'université en 1950. En 1950, il est complètement normal que ces jeunes-là n'aient qu'une idée en tête. Reconstruire leur pays. Il s'agit pas, là, on n'est pas dans l'idéologie, là, il s'agit pas d'être pour Staline ou contre Staline. Il s'agit qu'on arrive à 18 ans, 19 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on a à faire dans la vie ? Quand le jeune Mikhail Gorbatchev quitte son village pour aller à Moscou pour faire ses études, il traverse 3000 kilomètres de terre russe. Il va de presque au Caucase jusqu'à Moscou. Et là, il voit que son pays est dévasté par la guerre. Il voit que les villes sont à reconstruire entièrement. Donc c'est tout à fait naturel que chez cette jeunesse-là, il y ait un sentiment tout à fait positif et pas du tout politique, qui consiste à dire quel est notre devoir à nous dans la vie. Reconstruire notre pays. Les Russes sont très patriotes, on le sait. Encore une fois, là, c'est pas du communisme ou du non-communisme. C'est simplement l'idée de bien faire, l'idée d'être utile à son pays. Et ça, il faut reconnaître que beaucoup de soviétiques de l'époque ont ce sentiment.
Alors, Staline meurt en 1953. Hein, donc, Gorbatchev est un jeune homme de 22 ans. Alors, ensuite, alors, après Staline, il y a Brejnev. Alors, pas Brejnev, non.
Oui, il y a toute une période qui est aujourd'hui qui a l'air très grisâtre et très complexe. C'est une période, la succession de Staline, elle se fait avec Khrouchtchev, ça se passe plus ou moins bien. Il y a surtout un épisode très important, c'est que Khrouchtchev, à un moment, sort un rapport au cours du 20e congrès du parti, on est en 56, un rapport pour dire que Staline était un tyran, un monstre, etc. Alors ça, ce rapport, il fait un mal de chien, parce que, évidemment, dans ce pays où on a expliqué à tout le monde que Staline était un génie, un demi-dieu, etc. D'un seul coup, l'homme qui a pris la succession de Staline, lui-même est en train de dire « Mais Staline, il a fait des choses épouvantables, etc. » Ça a énormément perturbé le pays, ça a énormément perturbé l'ensemble de l'Europe de l'Est. C'est à cause de ça que les Hongrois se révoltent en 1956, en disant « Oui, mais alors, si tout ça n'était que condamnable, alors à nous de reprendre notre liberté. » Et ça va être le drame, puisqu'en 1956, les Hongrois sont évidemment durement réprimés, comme le seront les Tchèques en 1968. Cette période, elle est complexe, elle permet à Mikhail Sergeyevitch de monter d'échelon en échelon. Alors vous savez, en URSS, les échelons, on commence par le numéro 2 du Komsomol de sa ville. Le Komsomol, c'est les jeunesses communistes. Et puis, on devient numéro 1 du Komsomol. Et puis, comme on est numéro 1 du Komsomol, ben, on va peut-être devenir numéro 2 du parti, le parti communiste, donc c'est les adultes du coup. Alors soyons clairs, il n'y a que ça. Il n'y a que le parti et ce qui dépend du parti. C'est pour ça que l'Union soviétique était totalitaire, comme on dit. Le communisme soviétique était de nature totalitaire parce que tout, absolument tout dépendait du parti communiste. Et quand on voulait faire carrière, évidemment, il fallait faire d'abord le Komsomol chez les jeunes et ensuite le parti. C'est ce qu'a fait Gorbatchev jusqu'à ce qu'il devienne le patron du parti de sa région. Alors les premiers secrétaires des régions, c'était des gens tout puissants. Ils n'avaient de compte à rendre qu'au Kremlin, uniquement. Mais pour le reste, ils avaient droit de vie et de mort sur des dizaines de millions de gens. Hein. C'était le patron d'une région en URSS. Il était à la fois le préfet de région, le président du conseil régional et l'archevêque métropolitain. C'était l'homme qui avait absolument tous les pouvoirs. Encore une fois, la seule chose qu'on lui demandait, c'était d'obéir au Kremlin. Donc, dans le cas de Gorbatchev, d'obéir à Brejnev, Et puis à cette série de dinosaures qui vont gouverner l'Union soviétique dans les années, autour des années 80, vous vous rappelez Brejnev qui meurt, qui est remplacé par Andropov, le chef du KGB, qui est un vieil homme également malade, et lui aussi il faut le porter littéralement pour aller d'une réunion à l'autre. Et puis quand Andropov meurt, c'est Tchernenko qui le remplace, Tchernenko, vieillard, qui était complètement malade, qui était impotent. Il fallait lui aussi le porter pour l'amener sur le mausolée de Lénine, vous vous rappelez, à Moscou, dans les grandes fêtes et les grands défilés, on voyait cette brochette de dinosaures sur le mausolée de Lénine, ça faisait rigoler tout le monde, y compris d'ailleurs un certain nombre de soviétiques, hein. Et ça mettait un espèce de malaise, parce que comment cette superpuissance qu'était l'URSS, la deuxième superpuissance du monde, comment pouvait-elle être gérée par cette brochette de Diplodocus Kakoshim ? C'était terrifiant. Et en effet, ça va expliquer l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir. Parce qu'il y a un moment où on n'en pouvait plus. Gromyko, qui était également un vieillard, Oustinov, le chef de l'armée, tout ça, c'était un hospice de vieillards incapables de gérer le pays. Non pas seulement parce qu'ils étaient vieux, mais parce qu'ils étaient à la tête d'un système totalement paralysé, figé, comme eux. Au fond, ces vieux-là étaient à l'image de ce qu'était leur pays. Une espèce de gros monstre qui avait presque 70 ans et qui était complètement malade de l'idéologie, de l'espèce de d'autoritarisme du parti. On ne pouvait rien faire.
Un immobilisme.
Immobilisme total, à une époque où on était quand même au début de la mondialisation. Hein, c'est quand même les années 80. Gorbatchev arrive, c'est en 1985. On sait déjà en 85 que le monde est en train de s'ouvrir, que la Chine est là, qui ne demande qu'à grandir, qu'il y a des pays du tiers-monde qui sont en train de trouver une espèce de dynamisme, comme le Brésil à l'époque, ou certains pays africains. On sait bien que le monde est en train de changer. Sauf que l'URSS, le grand pays communiste, la grande puissance, la deuxième grande puissance du monde, est totalement figée. C'est pour ça que Gorbatchev devient secrétaire général en 85. Tous ces vieux-là ont compris. Ils ne sont pas idiots.
Il a eu des parrains quand même. Andropov et Gromyko sont les parrains quand même de Gorbatchev.
Tout à fait. Il faut dire d'ailleurs que Andropov et Gromyko étaient sans doute les deux plus intelligents de la bande. Hein. C'était Andropov, chef du KGB. Lui, il était très bien informé sur tout. Andropov, ne serait-ce que parce qu'il était chef du KGB, savait parfaitement que l'Union soviétique était en crise totale, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Quant à Gromyko, qui était le ministre des Affaires étrangères depuis 25 ans, il savait très bien, pour voyager dans le monde, que son pays était de plus en plus à la traîne. Donc ces vieux-là ont dit, mais il nous faut un jeune qui rajeunisse tout ça, qui modernise le pays, qui empêche le parti de perdre le pouvoir et l'Empire de s'éclater. C'était ça. Quand le jeune Gorbatchev est nommé, est désigné pour prendre la tête du Politburo, il a au fond un cahier des charges très simple. Éviter l'éclatement de l'Empire et éviter l'effondrement du parti. Rétrospectivement, c'est exactement ces deux échecs qui vont résumer toute son aventure.
Toute l'aventure de Mikhaïl Gorbatchev a retrouvé dans la biographie que Bernard Lecomte lui a consacrée en 2014 et qui est toujours disponible aux éditions Perrin ou alors dans la collection de poche chez Tempus. Wagon Livre revient, nous marquons une nouvelle virgule musicale et puis ensuite nous redonnerons la parole à Bernard Lecomte, extrait d'une émission déjà diffusée en février 2015 sur l'antenne de Radion. Il nous expliquera effectivement de quelle manière on comptait sur Mikhaïl Gorbatchev pour moderniser l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et moderniser aussi le parti. Très bonne fin de matinée à toutes et à tous. Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous revenons dans une poignée de minutes.
C'est le jour où l'été est arrivé, le jour où nous avons rangé nos ratés, comme l'on jette parfois du mobilier abîmé. On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier. Alors sans cri, nous avons ri comme pour courir le bruit de nos sanglots. Timidement, on s'est dit, restons amis comme si c'était beau. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre autour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poèmes lus, c'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est le jour où nous sommes sortis du rêve avant la fin, comme si l'on avait peur qu'il ne finisse pas bien. C'est le jour où, au fond de moi, j'espérais que notre adieu dise à demain. Comme un accord stupide, on s'est promis qu'on s'appellerait encore, qu'on se dirait bonne nuit, et que malgré la solitude des matins, des réveils froids, on ne regretterait rien. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez la retrouver très facilement sur le site d'archives de Wagon Livre, via internet bien évidemment sur le www.yannickpetit.fr. On retrouve dans une poignée de minutes Bernard Lecomte, ancien grand reporter, journaliste, spécialiste des pays de l'Est, qui a couvert pour l'Express les dernières années du communisme. Il s'agit d'une émission que vous avez déjà pu entendre il y a tout de même quelques années. C'était en février 2015, au moment où Bernard Lecomte venait de faire paraître une biographie de Mikhaïl Gorbatchev aux éditions Perrin. Mikhaïl Gorbatchev qui fêtera le 2 mars prochain ses 90 ans. Bernard Lecomte, qui effectivement a publié un grand nombre d'ouvrages sur l'Union soviétique, mentionnons en 2016 Les secrets du Kremlin, et puis l'année d'après L'histoire du communisme pour les nuls, et l'été 2020 apparu en librairie KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques, c'est aux éditions Perrin, un ouvrage passionnant qui est toujours disponible en librairie et qui raconte la riche histoire du KGB, hein, la Tchéka, la guerre civile, la GPU, qui est le dernier avatar avant la fondation du KGB proprement dit, les procès staliniens, le goulag, la guerre froide, la dissidence. Revenons à Mikhaïl Gorbatchev, qui devient donc le 7e secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique le 11 mars 1985 et on lui demande d'enrayer le déclin de l'Union des républiques socialistes soviétiques incapable de se remettre en question. Bernard Lecomte.
Voilà, on compte sur lui pour moderniser le pays, moderniser le parti. Alors moderniser, ça veut dire évidemment réformer, ça veut dire procéder à des changements. On ne peut pas moderniser d'un coup de pinceau comme sur un vieux garage. Gorbatchev va effectivement faire ce qu'il peut, mais soyons clairs, il n'a aucunement l'intention de changer le système. Ça, il faut bien l'avoir en tête. De même, il n'a absolument pas une seconde envisagé l'éclatement du RSS et de rendre leur liberté aux nationalités soviétiques. Ça, c'est clair. Lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est trois choses. Il va essayer de, en quelque sorte, restructurer l'économie, c'est ce qu'on va appeler la perestroïka. La perestroïka, ça consiste à dire, ben voilà, il faut mettre de l'huile ici, changer les usages là, il faut donner un peu plus de liberté à ceci, un peu plus de souplesse à cela, etc. C'est ça, la perestroïka. Qu'est-ce qu'elle va donner, la perestroïka? C'est simple, elle va désorganiser ce monstre paralysé qu'était l'URSS. Pourquoi ? Parce que ce monstre tenait sur la volonté unique du Parti communiste de l'Union soviétique. Le parti avait tous les droits, le parti décidait de tout. Quelqu'un à l'autre bout du pays désirant se faire faire des cartes de visite passait par la censure qui demandait au parti qui commandait à l'imprimerie du parti la carte de visite. C'était ça surtout, je caricature à peine. Et le simple fait de donner un peu de souplesse ici, un peu d'autonomie aux uns et aux autres, va provoquer une crise terrible parce que tout va se désorganiser. Ça, c'est la perestroïka. La deuxième réforme qu'il entame, c'est ce qu'on appelait la glasnost. La glasnost, ça consiste à donner un peu de liberté aux journalistes, aux scientifiques qui font des rapports, aux gens qui écrivent, aux gens qui s'expriment. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, ce pays, qui est le deuxième pays du monde en matière économique, a des statistiques fausses, des photos truquées, des articles totalement biaisés dans les journaux. Il n'y a rien qui soit vrai dans ce pays.
C'est le pays du mensonge déconcertant, le pays du grand mensonge, selon la formule d'un journaliste dont j'ai oublié le nom.
C'est un communiste italien qui s'appelait Siliga, qui était d'origine yougoslave, et qui avait trouvé ça, le pays du mensonge déconcertant. C'était quand même une belle expression. Et c'est vrai que tout était mensonge dans ce pays.
Les statistiques sont truquées, oui, comme vous dites, les photos sont retouchées, on fait disparaître.
Moi qui ai beaucoup circulé dans ce pays, je peux vous dire que toutes les cartes routières étaient fausses.
Ah oui, ça, c'est
parce qu'il fallait tromper l'ennemi, parce que là, il y avait un centre militaro-industriel. Ici, il y avait un fabricant d'obus. Ici, il y avait, je ne sais pas quoi, un dépôt de carburant, que sais-je. Et donc, tout était faux. Gorbatchev décide que ça ne peut pas durer. Et franchement, c'est le bon sens. Donc, il dit aux uns et aux autres, allez-y, faites des rapports équilibrés, dites la vérité sur ce qui se passe. Quand vous avez quelque chose à dénoncer, faites-le. Et à la stupéfaction générale, ça marche. Les journaux commencent à se libérer. Les pièces de théâtre commencent à porter sur des vrais sujets. Les historiens à la télé abordent des vrais sujets. Staline, Trotsky, etc. Et ça fait un bien fou. Tout le monde lui est assez reconnaissant pendant la première année, qui correspond d'ailleurs à l'année de Tchernobyl. Si je cite Tchernobyl, c'est pas un hasard. J'ai fait un chapitre entier sur Tchernobyl dans mon livre, parce que Tchernobyl va beaucoup cristalliser cette évidence de la nécessité d'avoir un peu plus de transparence dans l'information. Quand vous avez une crise nucléaire comme ça à gérer, ben vous ne pouvez pas continuer de mentir tout le temps, de dire des rapports faux, de publier des communiqués truqués, etc. C'est pas possible.
Donc c'est avril 86.
Voilà. Et la glasnost commence en effet en 86. Elle va avoir son apogée en 87 et 88. Sauf que, il y a quelque chose que personne n'avait prévu, c'est que quand vous donnez de la liberté d'expression, quand vous montrez qu'on peut faire un article sur un poète dissident sans aller au goulag ou sans prendre le chemin de la prison, vous donnez des envies aux uns et aux autres. Qui va récupérer cette liberté d'expression ? D'abord les journalistes, ensuite les historiens et bientôt les Géorgiens, les Arméniens, les Lituaniens, les Ukrainiens, sans parler évidemment des Polonais, des Tchèques, des Hongrois, qui vont se dire, mais alors si on peut commencer à dire la vérité, ben on va la dire. Et la vérité, c'était quoi pour tous ces gens-là, pour toutes ces communautés, pour toutes ces collectivités, pour toutes ces nations ? C'était, on veut être autonome. Et petit à petit, cette exigence d'autonomie va passer à une exigence d'indépendance. Et ça va être irrépressible. Parce que la liberté d'expression, une fois que vous la donnez, c'est quand même très difficile de la récupérer. C'est parti. En Lituanie, à un moment, on est aussi libre qu'en Angleterre ou en France. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'ensemble des Lituaniens, à quelques exceptions près, extrêmement rares, qui sont en général les gens du KGB d'ailleurs. Mais à part cela, tous les Lituaniens, y compris les communistes, disent « mais nous, on veut quitter l'URSS ». Nous, les pays baltes, pas seulement les Lituaniens, mais les Estoniens, les Lettons, disent « mais attendez, on n'a rien à faire en URSS, c'est Staline qui nous a forcés à être là, on n'aime pas ce régime, on n'aime pas l'Empire, nous ce qu'on veut c'est être des petits pays indépendants, comme il y en a d'autres, les Pays-Bas, le Luxembourg, c'était ça pour les Lituaniens, c'était ressembler aux Pays-Bas, c'était formidable. » Et ce qui va se passer, c'est que à un moment, les Lituaniens vont prendre leur liberté, les Arméniens aussi, les Géorgiens aussi, et ça va être l'éclatement de l'Empire. L'éclatement de l'Empire, il est dû d'abord à la glasnost, et ensuite à ce que cette glasnost va provoquer au milieu des nationalités, et notamment la résurrection d'une nationalité que tout le monde avait oubliée, qui s'appelle la Russie. Car la Russie, dans toute l'histoire de l'Union soviétique, est absorbée par l'URSS. La Russie et l'URSS, pour les bolcheviks, c'était pareil. À quoi bon inventer un parti communiste russe, puisqu'il y avait déjà un parti communiste soviétique ? En revanche, il y avait un parti communiste lituanien, un parti communiste géorgien, un parti communiste ukrainien, kazakh ou kirghize. Simplement, les Russes n'avaient pas de parti. Ils avaient disparu dans l'aventure soviétique. Et voilà qu'un type du même âge que Gorbatchev, qui a à peu près la même carrière que Gorbatchev, qui s'appelle Boris Eltsine, va lui sentir ça. Boris Eltsine, il est beaucoup moins intelligent et moins cultivé que Gorbatchev, mais il a un instinct extraordinaire. Et d'instinct, cet homme-là va comprendre que s'il prend la tête du parti russe et s'il arrive à entraîner la Russie, il va se retrouver tout simplement à la tête d'un grand pays. Qu'est-ce que c'est que la Russie à ce moment-là ? C'est 150 millions d'habitants.
15 républiques ?
Il y a 15 républiques dans toute l'URSS. C'est évidemment la plus grande de toutes. C'est un pays qui a 10 000 km de long, qui va jusqu'au Japon, et qui a une histoire, une mémoire, une langue. C'est la Russie. La Russie ressuscite à cette occasion. Alors ça, personne n'avait prévu ça. Personne, ni les observateurs occidentaux, ni les experts de la CIA, ni l'entourage de Gorbatchev, ni personne n'avait prévu la résurrection de la Russie. Alors évidemment, on comprend qu'on va se trouver face à un vrai dilemme. D'un côté, vous avez Boris Eltsine, qui est le président, alors en plus président élu, parce qu'en 1991, il se fait élire au suffrage universel. Donc il est président élu au suffrage universel d'un pays de 150 millions d'habitants, complètement légitime. Et en face de lui, il y a Mikhail Gorbatchev, qui lui est désigné du bout des lèvres par le politburo d'un parti communiste qui est déjà obsolète. Vous voyez, le match se fait entre l'URSS et la Russie. Alors, quand on en parle comme ça autour d'un micro à Radion, longtemps après, on a l'impression que tout ça est évident. Croyez-moi, ça ne l'était pas. Moi, je me souviens très bien un jour être rentré dans mon journal à l'Express. Et je suis allé voir mon rédacteur en chef et je lui ai dit « Écoute, on va faire une cover spéciale, l'URSS contre la Russie. » Parce que je venais de comprendre à peu près que c'était ça l'enjeu. L'avenir allait se jouer là. Et mon rédacteur en chef m'a dit « Bernard, il faut que tu te reposes un peu maintenant. » C'était incompréhensible en Occident, ce match entre l'URSS et la Russie. Cette résurrection de la Russie, on a compris après, en effet, lorsque Boris Eltsine est devenu président de la Russie, lorsque l'URSS s'est effondrée, lorsque, par exemple, Leningrad est devenu Saint-Pétersbourg, capitale culturelle et littéraire de la Russie d'antan, et on a compris plus tard. Donc,
mais Gorbatchev, lui, il n'a pas senti venir les événements.
Personne,
non plus.
Mais lui non plus. Donc, il lance la perestroïka, ça désorganise l'ensemble de l'économie. Il lance la glasnost, ça provoque un début d'éclatement de l'Empire et la résurrection de la Russie. Et il a une troisième réforme, qu'on n'a pas encore abordée, mais qui est évidemment capitale. C'est son attitude à l'égard des pays étrangers, et notamment des pays de l'Est. Puisque jusque-là, on était sous ce qu'on appelle le régime de la doctrine Brejnev. C'était quoi la doctrine Brejnev ? Ça voulait dire, quand un pays de l'Est commence à battre de l'aile, tous les autres sont priés de l'envahir avec les chars de l'armée rouge pour leur mettre d'équerre. Voilà, c'était ça, la doctrine Brejnev. On avait bien vu à Berlin-Est en 53, à Budapest en 56, à Prague en 68, en Pologne en 81. La doctrine Brejnev, c'était ça. Et Gorbatchev dit... Cette doctrine Brejnev, elle n'existe plus. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer la guerre froide avec cette course aux armements qui nous pompe complètement notre énergie et notre économie. On ne peut pas réussir les réformes économiques si on continue d'accumuler les missiles interplanétaires. Et cette idée-là, qui a l'air toute simple comme ça aussi, quand on en parle 30 ans après, on se dit « bah oui, c'était le bon sens ». Non, à l'époque, ce n'était pas le bon sens. À l'époque, le monde reposait sur l'équilibre des forces atomiques entre les Américains et les Soviétiques. Et le premier qui allait céder serait mort. Et c'est ça qui s'est passé, parce que Gorbatchev avait une politique à la fois ouverte et plutôt intelligente de dire « à Reagan notamment, et puis ensuite à Bush, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la course aux armements ? C'est absurde cette course aux armements, il faut arrêter. » Et les Américains, d'ailleurs, ne l'ont pas cru, hein, d'abord. Et, mais c'est évidemment une ruse. Non, non. Gorbatchev avait réellement l'intention de mettre fin à la guerre froide. Mais il n'avait évidemment pas l'intention de faire partir vers l'Ouest les Hongrois, les Polonais, les Tchèques, tous ces pays qui ont compris qu'à partir du moment où il n'y avait plus la menace des chars soviétiques, ces pays-là ont commencé à vivre leur vie. Et il y en a un, on se rappelle très bien, la Pologne qui avait déjà commencé avec Solidarność, avec Walesa, avec l'aide de Jean-Paul II, la Pologne était déjà en train de conquérir son indépendance. La Pologne, en août 1989, avait déjà fait des élections semi-démocratiques, il s'était déjà donné un Premier ministre non communiste. C'était inouï, c'était un tournant inouï. Eh bien, si Brejnev avait été au pouvoir, ou Andropov, ou Gromyko, ou Tchernenko, je vous garantis qu'ils auraient envoyé les chars, parce que c'était tout simplement insupportable. Et on aurait refait le coup de Berlin-Est, de Budapest, de Prague et de Gdansk. Gorbatchev, lui, a pris une décision capitale, qui est sans doute la chose la plus importante de toute cette aventure. Il n'a pas envoyé les chars soviétiques mater les populations est-allemandes et polonaises. C'est évidemment l'essentiel de l'histoire.
En revanche, en 91, la carrière de Gorbatchev va s'interrompre. Alors, il y a ce putsch manqué. Vous l'avez dit, ce sont les pieds nickelés qui essaient de faire un putsch. Vous avez une anecdote, d'ailleurs, Bernard, à ce sujet.
Oui, c'est-à-dire que le putsch, il arrive trop tard. On comprend bien le putsch, c'est simple. Hein. C'est les conservateurs du parti qui se disent, mais si on continue comme ça, on va tout perdre. Il ne faut pas oublier que le parti, en Union soviétique, c'est 19 millions de familles. Hein. Donc, ces 19 millions de familles, ça fait du monde. Hein.
C'est 19 millions de privilégiés.
19 millions de privilégiés qui ont un job, qui ont une maison ou un appartement, qui ont une voiture, où les enfants vont à l'école, etc. C'est ça qui se passe. Et tous ces gens-là vont dire, mais alors, si le parti disparaît, qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Et c'est ça, le putsch des conservateurs, c'est tous ces gens qui se disent, on ne peut pas continuer comme ça. Sauf qu'il est trop tard. D'abord, eux-mêmes n'ont pas le contrôle parfait de l'armée ou du KGB, et puis, franchement, ils sont nuls. En plus, ils sont nuls. J'y étais, je peux vous garantir, je suis désolé de le dire aussi clairement, mais c'était une brochette de crétins qui avait décidé de reprendre le pouvoir sans s'en donner les moyens. Et on l'a vu tout de suite. Moi, je suis arrivé à Moscou le soir même du putsch. Je peux vous garantir que le soir même, c'était un lundi 19 août, je me souviens très bien, j'ai téléphoné à mon journal, l'Express, en disant « Ne vous énervez pas, ça va foirer !» Je me revois en train de crier ça dans le téléphone. « Ça va foirer !» C'est pas possible qu'ils réussissent le putsch. Et en effet, trois jours après, le putsch est par terre, grâce notamment à Boris Eltsine, qui va lui, alors, du coup, devenir non seulement la vedette de la résurrection de la Russie, mais en plus un héros national. Donc Boris Eltsine se retrouve en position extrêmement forte. Boris Eltsine va le guider, en quelque sorte, contre Gorbatchev, le chemin vers l'indépendance de chacune des républiques, dont la Russie. Lui, ce qui intéresse Eltsine à ce moment-là, c'est la liberté de la Russie. Alors, évidemment, vu avec 30 ans de retard, on se dit, oui, mais est-ce qu'il avait prévu, par exemple, l'Ukraine ou la Géorgie? Non, Boris Eltsine n'a rien prévu du tout. Il y a un principe tout simple, c'est l'éclatement du RSS. Voilà, il va vers l'éclatement de l'URSS, il sait qu'il est à la tête du pays le plus important, et il sait qu'il va avoir des liens avec les uns et les autres. Alors, les uns et les autres pensent à des relations un peu à la communauté européenne, on se dit, bon, on va faire une espèce de communauté d'État indépendant, comme ça qu'il l'avait appelé, pour garder des liens, parce qu'évidemment, 70 ans de liens économiques, politiques, administratifs ou fiscaux, que sais-je, c'était évidemment difficile à défaire. Ça a été défait. Et ça a été d'ailleurs une catastrophe. Quand Poutine qualifie cet événement de catastrophe, il ne faut pas s'étonner si les Russes sont d'accord avec lui. Parce que toutes ces populations ont connu à ce moment-là une espèce de d'ébranlement total, un déglingage général de toutes les institutions, qui encore aujourd'hui, avec l'affaire ukrainienne, montre que rien n'est totalement joué encore. Il y a des choses qui se sont cassées de façon parfaitement absurde, qui ont donné lieu à des guerres. Il y en a eu, hein, des guerres entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre les Azéries et les Géorgiens, heureusement avec les Baltes qui sont plus civilisés, ça n'a pas été des guerres. Enfin, il y a eu quand même des affrontements. Il y a eu 14 morts à un moment entre les Russes et les Lituaniens. Ça a fait du mal. Et puis, on voit bien que aujourd'hui, des années après, il y a eu la Géorgie en 2008, qui n'a toujours pas retrouvé l'indépendance qu'elle voulait. Les Russes sont là, dans deux petites régions de Géorgie. Il y a en Moldavie une région qui s'appelle la Transnistrie, qui est entièrement contrôlée par les Russes. Et puis en Ukraine, on voit en ce moment même que voilà, il y a une guerre, une vraie guerre locale, certes, mais c'est quand même une vraie guerre au cœur de l'Europe, là, à l'est de ce malheureux pays.
Bernard Lecomte, dans Wagon Livre, déjà diffusé en février 2015, pour évoquer Mikhaïl Gorbatchev. Vous êtes bien sûr Radion dans l'émission littéraire Wagon Livre. On marque une dernière pause musicale et nous nous retrouvons bien sûr avec Bernard Lecomte pour continuer d'évoquer Mikhaïl Gorbatchev, celui qui effectivement a d'une certaine manière provoqué la fin de l'Union soviétique, mais qui a aussi vraisemblablement bouleversé un grand nombre de données diplomatiques et stratégiques en Europe et dans le monde. On y revient avec Bernard Lecomte après la pause musicale que nous vous proposons. Je rappelle que Bernard Lecomte a fait paraître l'année dernière, et l'ouvrage est toujours disponible en librairie, KGB, La véritable histoire des services secrets soviétiques, et c'est aux éditions Perrin.
Je dois longtemps, longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Mon ami, j'ai rien à t'offrir que ce silence qui te fera fuir, ou cette parole surchargée qui ne sait plus où se percher. Plus tu demandes, plus tu insistes, plus je me planque, plus je résiste, et je peux lire dans tes yeux, tu te souviens pas. On se voit peu, t'avais oublié, ça te revient, je suis un vieillard, je suis un gamin. Je bois de l'eau, j'ai pas de scoop, et quand on s'approche trop, je coupe. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Je dois longtemps, longtemps aimer des amours mortes et enterrées, nous voir encore tout le temps partout et m'inventer des rendez-vous. Je dois longtemps ne pas comprendre pourquoi personne n'a su se rendre et prendre l'autre dans ses bras pour écouter ce qui ne sort pas, et à faire sauter les miroirs, à m'en faire péter la mémoire. Je sais, on dirait pas comme ça, il me faut rire, rire de moi. Il me faut des lettres anonymes qui m'accusent de tous les crimes, et au matin de ma vie, m'être fait beaucoup d'ennemis. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Il me faut longtemps, longtemps la lutte, la promenade et la dispute. Il me faut explorer mon époque et tout ce qu'elle provoque, contempler mes contemporains qui subliment leur chagrin, mater le mystère et l'héroïsme de danser sous le capitalisme. Tu me dis que tous dansent, même la honte qui monte, même l'absence, que tous dansent, que tous dansent. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude.
Wagon Livre, Votre émission littéraire.
Merci d'être avec nous en cette fin de matinée au cours de laquelle sur Radio nous feuilletons le grand livre de l'histoire de l'Union soviétique, mais nous parcourons aussi la vie presque romanesque d'un homme, Mikhaïl Gorbatchev, qui fêtera ses 90 ans au début mars prochain. Mikhaïl Gorbatchev qui a vraiment provoqué un changement historique qui aurait pu se terminer peut-être dans la guerre civile ou dans une apocalypse mondiale. Je laisse le mot de la fin à Bernard Lecomte, qui signait en 2014 en France la première biographie consacrée à Mikhaïl Gorbatchev. Je rappelle aussi que son dernier ouvrage a pour titre KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques, aux éditions Perrin. Bernard Lecomte.
Je crois que c'est important de rappeler ça, en effet. À l'époque, on pouvait aussi terminer la guerre froide d'une façon beaucoup plus violente. N'oublions pas qu'il y avait des milliers de missiles qui pointaient, des missiles américains pointés sur la Russie, et n'oublions pas les missiles soviétiques pointés sur nous, pointés sur Paris, sur Londres, sur La Haye, sur Bruxelles. C'était il y avait une chance, enfin si on peut parler de chance, que tout ça tourne à l'apocalypse nucléaire. Et il faut jamais oublier ça quand on pense à Gorbatchev. Gorbatchev, il n'avait pas toutes les qualités, il n'a pas réussi tout ce qu'il a voulu faire, on l'a bien vu, il voulait évidemment pas l'explosion de l'URSS. On lui devra quand même ça, et finalement il aura mérité son prix Nobel de la paix. Il a permis à la guerre froide de se terminer de façon pacifique. Et ça, c'est inestimable.
Je pense qu'il n'était pas superflu ni inutile de réévoquer l'éclatement de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991 et de revenir aussi sur le parcours politique exceptionnellement mouvementé de Mikhaïl Gorbatchev, ce qui fait d'ailleurs de sa vie un véritable roman, retrouvé d'ailleurs dans la biographie de Bernard Lecomte. Tout le parcours exceptionnel de ce personnage charismatique, ambigu et attachant, hein, très lié à sa femme Raïssa Mikhaïl Gorbatchev, donc dans la biographie de Bernard Lecomte parue chez Perrin, ou alors en format de poche chez Tempus de Bernard Lecomte. Je mentionne et rappelle le dernier essai qu'il a fait paraître l'été 2020, toujours aux éditions Perrin, KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 6 mars, toujours à 11h sur Radion. Nous serons en compagnie de Robert Auclair pour un ouvrage qu'il a fait paraître aux éditions Sutton intitulé Le pays avalonné. Il s'agit d'un ouvrage dans lequel sont réunies de vieilles photographies en noir et blanc des villages qui environnent Avalon. C'est un beau travail d'histoire locale que nous mettrons en valeur la semaine prochaine avec notre invité Robert Auclair. Si vous souhaitez retrouver l'émission d'aujourd'hui, vous pouvez bien évidemment la réentendre en podcast sur le site d'archives de l'émission via internet www.yannickpetit.fr. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.